Artus, Gabriel et leurs parents sont partis dans la forêt. En s'enfonçant dans la forêt sombre, Artus et Gabriel découvrent d'étranges champignons géants. Ils en mangent et sont aussitôt pris d'hallucinations. Attirés par une maison faite de gâteaux, ils s'y précipitent pour en manger. Une femme élégante les invite à entrer. Dès qu'ils passent la porte, les hallucinations se dissipent. La maison devient une maison d'horreur. La femme est une vieille créature mutilée qui emprisonne les enfants. 45 ans plus tôt, la jeune Jeanne, en rentrant de l'église, est importunée dans la rue par le baron. Mais le prêtre intervient et la protège. Le baron rentre au château où la baronne attise sa concupiscence en évoquant Jeanne et ses contacts avec Marthe, qu'elle qualifie de vieille sorcière. Peu après, Jeanne est arrêtée par les hommes de l'Alliance contre le mal. Traînée dans une ancienne abbaye, elle est confrontée à des hommes cagoulés qui l'accusent de sorcellerie et la torture. Le baron fait partie de l'assemblée.
Chapitre 7. Gabriel et Artus se réveillent enfermés dans la cage. Le sol de la cage est constitué de barreaux. La cage est posée sur des poutres au fond de la pièce principale. Il y a des portes dans la pièce principale et probablement d'autres pièces derrière ces portes. Les dimensions de la maison à l'intérieur ne correspondent absolument pas à la petite maison en gâteau qu'ils ont vue en arrivant. Les enfants essayent de ne pas faire de bruit. La sorcière est assise à la table, à l'autre bout de la grande pièce. Elle leur tourne le dos, mais un petit mouvement de sa tête montre qu'elle les a entendus. Elle est en train de manipuler un os. Avec un couteau, elle taille l'os et y grave d'étranges signes. On l'entend chuchoter. Lorsqu'elle a fini, elle arrête de chuchoter et pose le couteau. Elle met l'os dans sa poche, se lève et se dirige vers la cage. Les enfants, paralysés par la peur, la regardent arriver. Pendant qu'elle traverse la pièce, le temps semble se disloquer. La sorcière marche à une allure tout à fait normale. Mais le temps qu'elle met pour arriver à la cage ne correspond pas à ses mouvements. Cela dure beaucoup trop longtemps. Artus essaye de se montrer courageux, de ne pas pleurer, mais il commence à trembler. Tout d'un coup, la sorcière est arrivée devant la cage et s'assoit sur un tabouret.
C'est gentil d'être venu me voir. Vous avez goûté à mes champignons et à ma jolie maison. Maintenant, c'est moi qui commence à avoir faim.
Elle émet un rire à peine plus fort qu'un chuchotement. Elle se lève et contourne lentement la cage en scrutant les enfants de son œil unique. Les enfants se réfugient au fur et à mesure dans le coin opposé de la cage.
Voyons, ton petit frère est encore un peu maigre, mais il fera l'affaire.
Artus n'arrive pas à étouffer des petits gémissements qui s'échappent de sa gorge. Elle regarde Gabriel.
Toi, pas mal. Encore si jeune, et déjà pas mal. Il aime ça. Je vais l'appeler. Il va venir. Il suffit que je l'appelle. En attendant, tu vas te mettre au travail.
Elle sort une clé de sa poche, ouvre la cage et fait signe à Gabriel de sortir. À peine sortie de la cage, Gabriel veut commencer à courir. Mais elle ne sait pas trop où. S'enfuir et laisser Artus ? Chercher un outil, l'utiliser comme arme. Derrière elle, Artus commence à hurler. Gabriel se retourne. Artus est en train de se tordre de douleur, les mains crispées sur son sexe. La sorcière s'assoit de nouveau sur le tabouret devant la cage. Sans quitter Artus du regard, elle s'adresse à Gabriel.
Oh non, tu vas rester là. Tu vas m'obéir, petite garce.
Artus s'arrête de hurler, il gémit doucement. Apparemment, les douleurs l'ont lâché. Toujours sans regarder Gabriel, la sorcière sort l'os préparé de sa poche. Elle le brandit.
Tu vois ça? C'est le 11e doigt de ton petit frère.
Gabriel ne comprend pas.
Si tu m'obéis pas, il va avoir mal à son 11e doigt. Très mal. Regarde, comme ça.
Avec des mouvements rapides et compliqués, elle fait tourner l'os entre ses doigts. Artus commence à hurler. Les mains crispées sur son sexe, il se tord sur le sol de la cage.
Fais ce qu'elle dit. Arrêtez, je fais ce que vous me direz. Je fais ce que vous voulez.
La sorcière sourit et remet l'os dans sa poche. Elle ferme la cage à clé et s'accroupit à côté d'Artus, recroquevillée contre les barreaux. Elle lui chuchote à l'oreille.
Toi, tu vas attendre ici. Je te ferai venir pour le dîner.
Il a caché sa tête entre ses bras. Elle lui fait quand même un clin d'œil avec l'œil valide. Chapitre 8. Un homme cagoulé s'approche du portail de l'abbaye. Un gardien lui barre le chemin. L'homme chuchote quelque chose à l'oreille du gardien. Le gardien le laisse passer avec un sale sourire. L'homme pénètre dans des couloirs déserts. En descendant un escalier, il enlève la cagoule. C'est le prêtre. Le soir, il est revenu de sa visite chez le prêtre de la ville, épuisé par deux journées de marche. Devant sa maison, Aldara l'attendait afin de lui raconter ce qui s'était passé. Après l'avoir remercié, il est parti tout de suite vers l'abbaye. Maintenant, il dévale l'escalier, il connaît les lieux. Prudemment, il entre dans la grande salle. Il n'y a personne. À la lueur vacillante de quelques torches et bougies restées allumées, le prêtre découvre les instruments de torture. La réalité dépasse tout ce qu'il a pu imaginer. Et cette planche au milieu?
Mon Dieu!
Jeanne gît à côté de la planche, par terre, encore vivante, à peine consciente. Elle a un œil crevé, le visage lacéré, les vêtements déchirés, tout son corps est couvert de blessures. Le prêtre l'aide à se relever.
Je vais te faire sortir d'ici. Je t'amène chez la vieille Marthe. Viens.
Jeanne secoue faiblement la tête et montre du doigt vers un coin du donjon. Dans la pénombre, le prêtre distingue un objet dont il a déjà entendu parler, mais auquel il n'avait jamais voulu croire. Une vierge de fer. Dans la vierge de fer ouverte, gît le corps de Marthe, transpercé par les clous. Étrangement, le visage de Marthe est resté calme, ses yeux sont fermés. Le prêtre se détourne, désespéré, en luttant contre l'horreur qui l'envahit. Il se tourne vers Jeanne.
« Viens, appuie-toi sur moi !»
Jeanne arrive à se relever et à s'accrocher au prêtre. Le prêtre la dirige vers une petite porte. Derrière la porte, il y a un escalier étroit, apparemment inutilisé, envahi de toiles d'araignée. Pendant qu'il monte les marches, le prêtre note chez la fille une résistance étonnante à la douleur. Elle grimpe, marche après marche, en serrant les dents, sans qu'il ait besoin de la soutenir entièrement. Ils arrivent à sortir, inaperçus, à l'arrière du donjon. De la petite porte d'où ils sortent, on peut voir le portail d'entrée. Le gardien disparut. Le prêtre a l'impression que ce n'est pas un bon signe.
« Vite ! Vite, je vais te cacher, on va te soigner, on va t'aider à fuir. »
Non, laissez-moi, je vais m'en sortir. Ce serait terrible s'il vous arrive malheur à cause de moi.
Le prêtre secoue la tête. À sa surprise, Jeanne l'étreint brièvement, puis elle disparaît dans les sous-bois qui bordent la route. À À ce moment-là, des voix s'élèvent. Une petite troupe d'hommes s'approche, torche à la main. Le prêtre va vers eux. La troupe est constituée du gardien et du baron, avec ses hommes de main. Au milieu du groupe marche, d'un pas solennel, le commissaire de l'évêque. Il porte une toque et une chaîne avec une grande croix en or. Le prêtre s'arrête devant eux. Le commissaire de l'évêque le toise avec un sourire froid.
Ah, mon père, comment allez-vous? Vous n'êtes pas encore couché à cette heure-ci? Comme ça, tout d'un coup, vous vous intéressez à nos travaux, à notre combat contre le mal. Vous qui nous avez déjà mis tant de bâtons dans les roues auprès de l'évêque. Venez, on va vous montrer notre travail en détail.
Il fait un signe de la tête aux hommes. Le prêtre est encerclé, ses bras saisis, on rouvre le portail. Le prêtre ne résiste pas, le visage serein, il se laisse conduire dans le donjon. Chapitre 9. À plusieurs reprises, Jeanne esquive les hommes de main du baron, lancée à sa recherche. Elle se cache dans des buissons, se fond dans l'herbe, se tapit contre la terre. Il ne lui reste qu'un œil pour se repérer dans l'obscurité et les douleurs lui déchirent le corps. Pour gérer les douleurs, elle appuie son front contre le sol. Elle respire profondément l'odeur de la terre, elle y enfonce ses doigts. Lorsque les hommes sont partis, elle se relève et continue à avancer. Elle débouche sur des champs de blé et se faufile entre les gerbes. La lune est apparue dans le ciel. Jeanne avance, courbée entre les rangées pour ne pas se faire repérer. Elle n'est pas sûre de la direction à prendre. Prudemment, elle glisse la tête hors des gerbes pour observer les alentours. Apparemment, plus personne ne la poursuit. Elle reconnaît les environs. Au bout des champs, elle distingue la petite maison éclairée par la lune. Finalement, elle pousse la porte de la maison de Marthe et s'effondre dans la cuisine. Allongée par terre, essoufflée, elle marmonne.
« Dieu ne m'a pas aidée. »
La cuisine est faiblement éclairée par la lune dans la fenêtre. Au bout d'un moment, Jeanne se lève péniblement pour boire de l'eau dans une jarre. Puis elle se traîne vers l'étagère. Les mains tremblantes, elle en retire un petit flacon rempli d'une substance verdâtre, d'un granulat irrégulier. Elle en verse un peu dans la jarre. Après un instant d'hésitation, elle boit le mélange. Elle prend une grande inspiration et se cramponne à la table de la cuisine. De violents spasmes s'emparent de son corps, le parcourent et le secouent. Puis, petit à petit, les spasmes cessent. Jeanne se redresse en haletant. Elle ne tremble plus. Lentement, elle se dirige vers la cuisinière, fait un feu et met de l'eau à chauffer. Elle descend d'autres pots de l'étagère, en extrait diverses plantes séchées, puis les jette dans l'eau frémissante. Dans un tiroir, elle trouve un bout de tissu qu'elle déchire en bandes. Quand la décoction est prête, elle y trempe des bouts de tissu, nettoie ses blessures et enroule un bandage sur son œil crevé. Puis elle s'assoit sur une chaise. Ses mains reposent sur ses genoux. Elle ne bouge plus. Le temps passe. Dehors, des loups commencent à hurler. La lune glisse hors du cadre de la fenêtre. La cuisine, et Jeanne avec elle, plonge dans l'obscurité. Jeanne ne bouge toujours pas. Son œil est fermé. Les loups s'arrêtent de hurler. Jeanne ouvre l'œil. Au loin, des voix d'hommes résonnent, elle se rapproche. Jeanne referme l'œil et commence à chuchoter quelque chose. Les voix résonnent maintenant tout près de la maison. On entend des bribes de phrases et le cliquetis métallique des armes. Tout à coup s'élèvent des grondements graves, souterrains, féroces.
Attention derrière toi! Nom de Dieu!
Un hurlement chaotique éclate parmi les hommes. Des hurlements si aigus qu'ils ne ressemblent plus du tout à des voix d'hommes. Les bruits s'éteignent, le calme revient. La lune réapparaît, cette fois dans la chambre voisine. Jeanne se lève et va dans la chambre. Elle ouvre un placard et en sort une vieille robe noire de Marthe. Dans un tiroir, elle récupère une carte que Marthe lui a montrée autrefois, un plan de la forêt dessiné à la main. Enfin, du fond du placard, dissimulé derrière un panneau, elle extrait avec précaution un vieux grimoire. Elle glisse le tout dans un sac, ajoute les pots posés sur la table, puis sort de la maison. Dehors, l'aube s'annonce. Le ciel, encore parsemé d'étoiles, commence à pâlir. Dans le potager devant la maison, des vestiges du massacre jonchent le sol, armes, lambeaux de vêtements, morceaux de corps. Jeanne les contourne, sans y prêter la moindre attention, et se dirige vers la forêt. Le sentier qu'elle connaît bien la conduit jusqu'au lac. Les oiseaux ont commencé leur chant matinal. Elle enlève ses vêtements déchirés, entre dans l'eau et nage jusqu'au centre. Là, elle se laisse flotter sur le dos, les bras écartés, son visage tourné vers le ciel rose. Elle commence à chuchoter. C'est une petite phrase qu'elle répète encore et encore. Une phrase incompréhensible, rythmée, dans une langue qui n'existe plus. Ou pas encore. Très lentement, le corps de Jeanne commence à s'élever hors de l'eau. À la lumière du soleil levant, elle flotte au-dessus du lac, en répétant sa phrase rythmée. Ses blessures commencent à se refermer. Elle redescend lentement. Une fois immergée dans l'eau, elle met fin à l'incantation et nage vers le rivage. Sortie de l'eau, elle enfile la robe de Marthe, glisse le sac sur son épaule et poursuit sa marche à travers la forêt. Elle prend le sentier qui monte à flanc de colline. En gravissant la pente, elle marmonne.
Dieu ne m'a pas aimé.
Au sommet, au-dessus des arbres, le ravin sous ses pieds, elle se retourne. Elle reste un moment à regarder au loin, les toits et le clocher du village baignés par la lumière du matin. En retirant le bandage de son œil, elle murmure.
Vous allez regretter ce que vous avez fait. À Marthe, à moi. Aux autres, vous allez le payer cher. Je vivrai longtemps, très longtemps. Je vais manger vos enfants.
Chapitre 10. Encore une fois, belle-mère crie les noms des enfants. Après avoir pénétré dans la partie sombre de la forêt, elle est arrivée à la clairière. Elle découvre les champignons géants, les cailloux dispersés. Le père accourt en jurant entre ses dents.
« C'est de ma faute. Bon Dieu, c'est de ma faute. »
Belle-mère l'enlace en pleurant. Elle lui montre les champignons.
« Regarde, je ne connais pas cette espèce. Mon Dieu, des bouts ont été arrachés. J'espère qu'ils n'en ont pas mangé. »
Le père essuie la sueur de son visage.
Je suis allé jusqu'au ravin. Aucune trace. Pas de trace de bête non plus. Allez, on rentre vite. Peut-être qu'ils sont déjà rentrés à la maison.
Ils arrivent en fin d'après-midi. Derrière la ferme, dans le ciel, un orage se prépare. Déjà de loin, il voit trois hommes armés avec des chevaux rôder devant la maison. Les hommes les aperçoivent et viennent vers eux. Le premier est un grand costaud, le deuxième louche, son œil de droite part vers l'extérieur. Le troisième arbore un sourire niais, sans raison apparente. Le grand les aborde.
Nous sommes envoyés par le baron.
Le père n'a pas le temps.
Où sont nos enfants ?
L'homme fronce les sourcils, secoue la tête.
Enfants ? Il n'y a pas d'enfants ici. Par contre, vous savez que vous êtes en retard sur vos taxes ?
Croyez-moi, on a fait tout ce qu'on a pu. On n'a même plus de quoi manger. Vous n'avez vraiment pas vu nos enfants ?
Je vous dis qu'on n'a pas vu d'enfants. Où venez-d'où comme ça, les mains vides ? Vous ne travaillez pas ?
On cherche nos enfants, bon sang !
Entre-temps, belle-mère s'est approchée de la porte d'entrée. Le grand homme se dirige lui aussi vers la maison, pousse la femme et dit, en regardant le père.
Ben, on va déjà voir ce que tu caches dans ta maison. Tout ça appartient au baron. Retenez-les !
Il fait signe aux autres. En un éclair, l'homme qui louche a dégainé son épée et la pointe sur le cou du père. Le père hésite. Il pense à sa hache suspendue en bandoulière sur son dos. Mais l'homme lui fait signe de la jeter par terre. Le père est obligé d'obéir. Impuissant, il regarde l'homme au sourire niais empoigner sa femme à bras le corps. Elle tente de se dégager, sans succès. Le grand homme entre dans la maison et commence à fouiller. On entend du remue-ménage, des bruits de meubles qu'on renverse. Au bout d'un moment, il réapparaît.
Il n'y a vraiment rien dans cette misérable baraque.
L'homme qui retient belle-mère dit aux autres.
Peut-être que si.
Il approche son visage de celui de la femme qui tente de se débattre.
Au moins, on ne sera pas venu pour rien.
Il essaye de l'embrasser, son sourire semble avoir trouvé une raison. Elle lutte désespérément. Mais l'homme la retient, implacable, comme un étau. Le père fou de rage veut intervenir, mais l'homme qui louche enfonce son épée un peu plus dans son cou. Le grand homme ricane.
Bonne idée, tiens-la bien. Toi, surveille-le bien. Chacun son tour, moi le premier.
Il se dirige vers la femme, se campe devant elle et la regarde, puis il lui arrache la chemise. L'homme avec l'épée ne peut pas s'empêcher. Pendant une seconde, il tourne la tête pour regarder. Le père saisit le bras qui tient l'épée, tord le bras, arrache l'épée et l'enfonce dans la poitrine de l'homme. Les deux autres entendent un cri d'agonie et ils se retournent. Incrédules, ils voient l'homme qui louche s'effondrer devant le père qui tient l'épée. Les deux hommes dégainent à leur tour leur épée, se séparent et avancent prudemment vers le père, chacun par un côté. Le père jette l'épée, saisit sa hache par terre et avance vers eux. Le premier coup d'épée est porté par le grand homme. Il vise la poitrine. Le père l'esquive de justesse. Avec un grand élan de sa hache, du bas vers le haut, il coupe le bras qui tient l'épée. L'homme en hurlant s'écroule. Il tombe sur son bras et sur son épée. Le père fait demi-tour. Il n'a pas besoin de réarmer son cou. En suivant la trajectoire de sa hache, il coupe la tête de l'homme derrière lui. La tête tombe, le tronc s'effondre. La tête roule par terre et s'arrête un peu plus loin. Le sourire niais est resté figé là, mais maintenant comme traversé par un doute. Le père se retourne encore une fois pour fendre le crâne du grand homme qui se tord sur le sol. Il laisse la hache où elle est et se précipite vers sa femme.
Tu n'as rien ?
Elle secoue la tête et se réfugie dans ses bras. Il reste ainsi un moment. Puis elle rentre dans la maison pour chercher un vêtement à enfiler. Entre-temps, la nuit est tombée. L'orage qui couvait depuis l'après-midi est finalement arrivé au-dessus d'eux sur le point d'éclater. Des coups de tonnerre grondent, des éclairs déchirent le ciel. Le père nerveux commence à détacher les chevaux.
On va prendre les chevaux. Comme ça, on peut aller chercher plus loin dans le ravin. On va les trouver.
Mais les chevaux sont complètement affolés par l'orage. Le père peine à les retenir. Belle-mère lui saisit le bras.
On ne peut pas partir maintenant. Tu as vu l'orage ?
Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a, l'orage ?
Belle-mère regarde le ciel, le père suit son regard. D'immenses nuages noirs se sont amassés autour de la lune sans la couvrir. Cela ressemble à un gigantesque entonnoir, un gouffre en rotation illuminé par la lune au centre.
Tu entends le tonnerre ?
Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a, le tonnerre ?
Écoute !
Un coup de tonnerre éclate puis s'estompe suivi de son écho. Après une courte pause, zébrée par des éclairs, un nouveau grondement retentit et se répercute dans l'écho. Cela se répète. Le père ressent quelque chose d'étrange, sans pouvoir mettre le doigt dessus. Belle-mère regarde le père, le visage angoissé.
Le ciel s'est déréglé. On dirait un rythme. Un rythme qui vient du ciel. Non, des enfers. Il ne nous reste qu'à prier.
Maintenant, le père l'entend aussi. Les coups de tonnerre, les échos et les pauses se succèdent à un rythme bien précis. Un rythme contre nature. Un rythme qui accompagne d'une manière effrayante le maelstrom des nuages noirs tournoyant autour de la lune.